France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Isabelle. J'ai vraiment été séduite dans votre livre par le parti pris original d'étudier les lectures de ces 64 femmes du 19e siècle au travers de leurs écrits, que ce soit des lettres ou des journaux intimes, dans lesquels elles se livrent sur leurs expériences littéraires.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Mais que lisaient donc les femmes au XIXe siècle? Plus généralement, quelle place occupaient les livres dans leur vie? Quels usages faisaient-elles de ces lectures? À partir de l'étude de journaux, de correspondances, d'autobiographies de 64 lectrices de l'époque, la chercheuse Isabelle Matamoros montre que ces usages individuels débordaient souvent les discours dépréciatifs que l'on pouvait porter sur les femmes qui lisent et parfois même débordaient les cadres imposés. Apprentissage de la lecture, portrait d'une génération, quête d'indépendance, Isabelle Matamoros est notre invitée pour cette passionnante plongée dans une société post-révolutionnaire fondée sur l'inégalité des sexes. Ensuite, et comme chaque semaine, nous retrouvons Mathilde Wagman. Elle nous parle littérature jeunesse et aujourd'hui, elle se demande si on devrait arrêter de lire certains classiques aux jeunes enfants pour des raisons éducatives, une fameuse tension entre censure et mise en discussion. Et en fin d'émission, on jouera avec vous au grand jeu des pages musicales. Nous voilà ensemble pour une heure. Bonne nouvelle, bienvenue tout le monde dans le Book Club. Et bonjour Isabelle Matamoros.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire, vous êtes spécialiste du genre au 19e siècle, vous signez Le pouvoir des lectrices, une histoire de la lecture au 19e siècle. Votre livre a paru aux éditions CNRS. Bienvenue dans le Book Club.
Merci.
On est ravis de vous recevoir et ravis d'évoquer ce sujet historique. C'est peu commun chez nous. Au Book Club, on s'intéresse plus évidemment aux parutions contemporaines ou à des rééditions. Et là, c'est vraiment la pratique de la lecture avec une dimension historique qui va être au cœur de notre conversation. Peut-être on va parler un peu de méthodologie pour commencer. On l'entendait dans la voix de notre auditrice Agnès, ce qui lui a plu, c'est vraiment le fait que vous soyez basé sur des écrits de ces 64 lectrices du 19e siècle. Sur quoi avez-vous travaillé et en quoi ce corpus est particulier, Isabelle Matamoros?
Alors effectivement, j'ai travaillé sur les journaux intimes, les autobiographies et les correspondances de 64 femmes, vous l'avez dit, qui sont nées au tournant des 18e et 19e siècles. Ces lettres, ces journaux et ces autobiographies, ils étaient soit édités. Il y en a qui sont très connus, hein, par exemple l'Histoire de ma vie de George Sand ou les Mémoires de Marie Dagout. Et il y a aussi toute une part d'inédits qu'il a fallu aller chercher et trouver dans les archives.
Comment les avez-vous trouvés dans les archives?
Alors, je me suis appuyée notamment sur les travaux de Philippe Lejeune, hein, dans l'Association pour l'autobiographie, l'APA, hein, qui est située à Ambérieu-en-Bugey, qui a fait un immense travail de collecte, hein, de textes, d'écrits personnels, hein, que ce soit des journaux intimes ou des autobiographies.
Voilà. Que des familles auraient déposé aux archives?
Oui, des familles, des descendants qui sont déposés dans cet espace spécifique. Alors là-bas, j'ai trouvé quelques pépites, hein, magnifiques, des mémoires ou des pensées, hein, des pensées intimes, par exemple. Après, je me suis appuyée également sur les inventaires des fonds privés des archives départementales. Après, sur les grands fonds privés, hein, des principales bibliothèques parisiennes, notamment, quoi.
Comment est-ce que vous avez choisi ces 64 femmes? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Est-ce que vous avez cherché à ce qu'elles soient représentatives de quelque chose, de l'époque, de la société? Qu'est-ce qui vous a fait définir ce corpus?
Alors, je l'ai défini par leur date de naissance, en fait, parce que j'avais envie d'étudier plus ou moins une génération de femmes nées au tournant du 18e, du 19e siècle. Hein, donc, j'ai des bornes chronologiques assez larges. Hein, elles sont nées entre 1790 et 1830. Après, en fait, je n'en ai exclu aucune parce que déjà, j'étais contente de trouver
Bien
des
sûr.
Femmes qui écrivent sur leur lecture à ce moment-là. Alors, j'ai quand même exclu toutes celles qui ne parlent pas de leur lecture, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de femmes qui écrivent des journaux ou des autobiographies ou des lettres et qui ne parlent jamais de ce qu'elles lisent. Donc, il faut imaginer que le corpus, il était peut-être deux fois plus vaste à la base, et parmi tous les textes que j'ai pu trouver, et j'ai juste exclu celles qui ne parlent pas.
Pour se concentrer sur ce qui, dans ses écrits, correspondances, autobiographies, mémoires, journaux, reprennent des moments de lecture et commentent ces lectures, que ce soit pour les commenter à autrui ou pour se les commenter à soi-même. C'est ça qui est aussi beau dans les textes que vous partagez avec nous. Donc ça reprend votre thèse, ce livre, et donc à chaque fois il s'agit aussi d'avancer des thématiques de cette étude en pouvant avoir accès pour nous à ces extraits de textes personnels. Alors peut-être on fait un petit paysage avec vous, Isabelle Matamoros, de la société dans laquelle vivent ces 64 femmes, le sort qui leur est réservé, surtout du point de vue de l'accès aux livres, du point de vue de l'accès à la lecture et de la scolarité.
Alors, vous l'avez rappelé en introduction, hein, la société post-révolutionnaire est une société fondamentalement inégalitaire. La Révolution française a exclu les femmes de toute participation à la vie politique et ensuite, hein, dans les lendemains immédiats de la Révolution, de la toute participation à la vie intellectuelle, en tout cas essaye. Et cela se traduit comment ? Cela se traduit notamment par un désintérêt complet, hein, notamment à partir de l'Empire, de l'État pour la question de l'éducation des filles, qui est entièrement laissée à la charge des familles et de l'Église. Alors, très concrètement, soit les petites filles, les filles hein, des milieux défavorisés pouvaient aller dans des petites écoles tenues par des congrégations religieuses, pour celles hein, qui y allaient, soit dans les familles plus aisées, la tâche hein, d'élever les filles incombait essentiellement aux mères, parfois aidées d'une gouvernante ou d'une institutrice privée, et dans certains cas, par la suite, elles pouvaient aller dans une pension secondaire.
Donc leur éducation n'est pas tournée vers la littérature, vers les livres. Alors comment ça se fait que ces 64 femmes que vous trouvez, et peut-être nous dire un mot de leur appartenance sociale à ces 64 femmes, comment ça se fait qu'elles peuvent lire des livres, Isabelle Matamoros ?
Alors, d'abord, effectivement, sur leur appartenance sociale, elles sont pour une grande majorité issues des classes sociales supérieures, hein, que ce soit la bourgeoisie ou l'aristocratie. Pour une raison très simple, c'est parce que l'alphabétisation est bien plus développée hein, dans ces milieux sociaux et aussi l'habitude d'écrire.
D'écrire. Il faut vraiment se dire que ce à quoi nous avons accès et ce dont nous pouvons faire l'histoire avec vous aujourd'hui, c'est parce que on s'appuie sur des femmes qui ont écrit. Toutes celles qui n'ont pas écrit ne peuvent pas nous raconter ce qu'elles auraient éventuellement lu.
Tout à fait, qui ont écrit et dont les papiers ont été soit publiés, donc ça c'est une grande chance hein, qu'il y ait beaucoup de textes en fait d'écrits personnels qui ont été publiés au 19e siècle parce qu'il y a une vraie appétence en fait pour ce genre littéraire.
Soit conservés.
Ou conservés, ouais. Effectivement, puis déposés et rendus accessibles. Donc il y a évidemment un biais extrêmement important hein, dans mon corpus, même si voilà il y a quand même une dizaine hein, de femmes qui sont issues de milieux plus populaires, que ce soit le petit commerce, l'artisanat, voire l'agriculture ou les milieux ouvriers.
Mais appartenant à ces classes sociales plutôt favorisées, elles sont néanmoins tenues plutôt éloignées du champ littéraire, des livres, et pourtant les textes que vous partagez avec nous et que vous étudiez, Isabelle Matamoros, ce sont des femmes qui lisent et qui commentent leur lecture. Alors quel est le chemin de ces femmes pour arriver à ce que vous appelez et qu'on va développer ensuite la bibliothèque collective ?
Alors c'est vrai que c'est un paradoxe hein, dans le sens où il faut éloigner les femmes de la scène littéraire, on va dire éloigner les femmes de la scène littéraire du monde de l'écriture. En fait, on n'attend pas d'elles qu'elles participent au débat intellectuel ni littéraire. Néanmoins, leur éducation, au-delà, on va dire de une fois qu'elles ont passé le cap de la première communion, hein, qui est vraiment un moment très important de l'éducation des filles, hein, qui oriente également aussi beaucoup leur lecture vers la lecture des livres de piété. Une fois passé ce cap de la première communion, eh bien, les jeunes filles, là, je parle pour les milieux les plus aisés, poursuivent hein, bien souvent leur éducation dans des institutions secondaires, hein, des pensionnats religieux ou laïques. Et dans ces pensionnats, en fait, il y a une forme d'enseignement littéraire. Et en fait, la littérature occupe finalement une place assez importante dans cette éducation secondaire, parce que de toute façon, les sciences en sont exclues, la philosophie en est exclue également, le latin également. Tout ça, c'est réservé en fait aux études des garçons. Que ce soit au collège ou au lycée. Donc il y a quand même, je dirais, une familiarité des filles avec la littérature, soit de leur temps, soit même des siècles passés. Et ensuite, le temps des jeunes filles, je pense que c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon ouvrage, le temps des jeunes filles, c'est un temps un peu à part entre justement cette première éducation et le mariage, qui est l'horizon, hein, l'horizon social vraiment des jeunes filles de la bonne société. Ce temps d'une jeune fille, eh bien, durant ce temps, il est toléré qu'elle lise et qu'elle passe finalement beaucoup de temps à lire.
Et on va y venir.
Sous contrôle, bien évidemment.
On va y venir parce qu'on va venir à « on dit » ou au « entends-tu » que vous développez, Isabelle Matamoros, c'est-à-dire les discours sur ces femmes qui lisent. Peut-être qu'elles lisent beaucoup, mais elles lisent mal, dit-on. Mais vous êtes passé rapidement sur les livres de piété. Or, vous y consacrez un passage dans votre livre en distinguant quatre façons pour les femmes de lire ces livres religieux, que seraient les religieuses, les fidèles, les critiques et les lectrices ordinaires. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu? Parce que c'est un moment important, vous l'avez dit, dans la vie des jeunes filles et des jeunes femmes, d'avoir accès à la lecture pour ces livres particuliers que sont les livres de piété.
Oui, alors en fait j'ai essayé de dresser effectivement une petite typologie parce que le livre de piété c'est vraiment l'objet le genre littéraire qu'on va retrouver dans absolument tous les témoignages, mais en fait les femmes ont vraiment des positionnements très différents envers ces lectures de piété. Il y a effectivement celles que j'ai appelées les religieuses. Alors ce sont des femmes comme par exemple Pauline Jaricot, qui a fondé un ordre missionnaire. Donc là, on est vraiment... c'est une femme qui est extrêmement croyante et qui écrit ne lire absolument que des livres de piété. Mmh. En excluant tous les autres livres. C'est-à-dire qu'elle définit, elle se définit en tant que bonne chrétienne par son exclusion des autres livres et par sa pratique
son étude,
intensive. Ouais. Voilà, c'est ça. Sa pratique intensive, suivie effectivement d'études, suivie de méditation, suivie d'annotations des livres de piété. Ensuite, il y a les fidèles, donc celles qui sont effectivement croyantes et qui essayent de mettre en œuvre dans leur vie de tous les jours les préceptes catholiques concernant la lecture. Par exemple, une femme comme Pauline de Castellane, qui appartient à la grande aristocratie de la monarchie de Juillet, et qui échange avec son directeur de conscience, le Monseigneur Dupanloup, en lui demandant toujours des conseils pour être la meilleure des lectrices possible, suivant ses normes, tout en s'autorisant, en fait, dans certains moments de sociabilité familiale ou amicale, d'autres lectures.
Donc là, avec l'idée que la lecture du texte religieux pour des questions de désir, d'élévation spirituelle est aussi une porte d'entrée vers d'autres littératures pour cette femme du 19e.
Oui, c'est-à-dire que depuis Fénelon, quand même, l'Église catholique se rend bien compte qu'on ne peut pas demander à des femmes qui vivent dans le monde, à des chrétiennes qui vivent dans le monde, de se consacrer uniquement à la lecture des livres de piété. Et donc, il y a tout un discours aussi pour les inciter à aller vers une autre littérature que les ouvrages de dévotion, mais bien évidemment une bonne
avec
littérature.
Avec modération.
Et avec modération.
On y viendra. Les lectrices critiques, ce sont lesquelles, Isabelle Moutard?
Alors, les lectrices critiques, celles que j'ai appelées lectrices critiques, c'est celles qui prennent position de manière plus ou moins virulente contre l'éducation catholique des filles et contre le fait que aux petites filles on apprend d'abord à apprendre à lire par cœur, on apprend
à nommer,
la forme,
quoi,
voilà, ouais. du par cœur et donc ces lectrices critiques comme Marie Dagout, connue également sous le pseudonyme de Danielle Stern, comme Suzanne Voilquin, qui a été une féministe saint-simonienne en 1830-1848, comme Clémence Royer plus tard, la philosophe, traductrice de Darwin, également féministe. Toutes ces lectrices critiques, en fait, reviennent a posteriori sur leur éducation et s'en prennent violemment
à la norme. En faisant des livres de piété, un des outils de la fabrication de la norme excluante pour les petites filles et pour les jeunes femmes. C'est-à-dire que c'est vraiment une lecture critique dans ce sens-là, une lecture féministe en fait, des livres de piété comme orientant l'éducation des petites filles pour l'inégalité. Et la quatrième catégorie, ce serait les lectrices ordinaires. C'est quoi les lectrices ordinaires?
Alors les lectrices ordinaires, en fait, c'est toutes ces jeunes filles, c'est beaucoup de jeunes filles que j'ai étudiées à travers leurs journaux intimes, toutes ces jeunes filles qui en fait lisent des livres de piété parce que voilà, c'est l'habitude.
Ça tombe sous la main presque.
Ça tombe sous la main. Le soir en famille, on se réunit, on lit une vie de saint. Et donc ensuite, elles prennent l'habitude un passage du catéchisme ou du paroissien, et elles prennent l'habitude de les lire de manière plus ou moins distante, de manière plus ou moins régulière, en se disant bien régulièrement qu'il faudrait qu'elles y reviennent à ces livres de piété parce que c'est bien, mais que bon, elles y comprennent pas forcément grand-chose. Et ça
apparaît dans leurs écrits intimes, oui, dans leurs journaux. Mm-hmm. Vous constituez ensuite ce que vous appelez, Isabelle Matamoros, une bibliothèque collective. Ce serait virtuellement tout ce que ces femmes, ces 64 lectrices, pourraient avoir lu. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette bibliothèque collective ?
Alors, on trouve des livres de piété,
sur lesquels on est revenu.
On trouve également beaucoup de romans. On trouve des livres d'histoire. On trouve également beaucoup de théâtre, beaucoup de poésie, parce qu'on est en pleine époque romantique, hein, donc ce sont deux genres très à la mode. Un petit peu de livres de philosophie, de la presse également. Donc en fait, on a une variété de genres littéraires à laquelle moi-même je ne m'attendais pas au début, puisque en fait j'étais partie, hein, j'avais commencé mon étude par la porte d'entrée assez classique, hein, qui concerne l'étude des lectures des femmes, c'est-à-dire que bon, bah en fait elles lisent des romans et elles lisent des livres de piété, et puis on va voir un peu ce qu'on peut faire à partir de là. Et en fait je me suis rendu compte que si les romans et les livres de piété constituaient bien la part essentielle
de leur lecture,
hein, de cette bibliothèque que j'ai constituée à partir de leurs souvenirs, on pouvait trouver toute une variété de genres littéraires et tous les plus grands succès de l'époque, en fait.
On va revenir en prenant des exemples précis et en les piquant dans cette bibliothèque collective. Peut-être un dernier mot dans ce propos introductif, Isabelle Matamoros. On parle des discours et de l'analyse des discours que vous faites autour des femmes qui lisent au 19e siècle. On dit que c'est presque pathologique la manière dont ces femmes liraient mal. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça ? Qui dit ça ? Et pourquoi on dit ça, Isabelle Matamoros?
Alors, là, je vais prendre un exemple très précis, ça va être le discours médical. Très clairement, au début du 19e siècle, les médecins font le lien entre une mauvaise manière de lire et le déclenchement de l'hystérie. C'est pas nouveau, hein, c'est un discours qu'on va déjà trouver au 18e siècle, mais le 19e siècle, qui est également le grand siècle de l'hystérie féminine, va consacrer, hein, un peu cet axiome comme quoi, voilà, une femme qui lit mal est potentiellement susceptible de devenir hystérique. Alors comment ces médecins font-ils le lien de cause à effet ? En fait, ils estiment que les femmes sont complètement dominées par leur système nerveux. Que donc,
contrairement aux hommes, sous-entendu.
Oui, contrairement aux hommes, en fait, qui sont bien davantage capables de pondérer leurs émotions, leur imagination, et de faire preuve de raison. Ils estiment que dans la manière où elles sont dominées par leur système nerveux, tous les romans susceptibles de provoquer de fortes émotions ou d'alimenter une imagination qu'on considère comme débridée, comme démesurée chez les femmes, ils considèrent en fait que toutes ces lectures sont susceptibles d'exciter à tel point leur système nerveux
qu'elles vont péter un câble.
Alors, voilà. Ou plutôt qu'elles vont potentiellement faire une crise d'hystérie. Parce que voilà, on établit un lien en fait entre l'esprit et le corps des femmes.
On va continuer de parler de lecture au 19e siècle, juste après cet extrait des Guerrières. C'est un projet musical et littéraire qui réunit Anna Mouglalis, P. R2B, Lucie Antounas, Théodora de Liliès et Narumi Hérisson. Un projet qui s'appelle Draga, projet collectif qui s'appelle Draga. Elles ont pioché des extraits d'un roman qui s'appelle Les Guerrières de Monique Wittig, roman paru en 1969. Pour les porter et les mettre en musique, elles seront en concert le 4 juillet à la Philharmonie de Paris. Et le morceau qu'on écoute s'appelle Les Oiselles.
Tu es loin d'avoir la fierté des oiselles sauvages qui, lorsqu'on les a emprisonnées, refusent de couver leurs œufs. Les oiselles sauvages, si elles s'accouplent avec les mâles pour tromper leur ennui, refusent de se reproduire tant qu'elles ne sont pas en liberté.
Oh,
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
En ce début du 19e siècle, entend-on, les femmes lisent beaucoup. Les grisettes comme les bas bleus, les bourgeoises esselées comme les jeunes institutrices ambitieuses. Elles lisent des histoires sentimentales et des faits divers, des livres de piété et des journaux de mode. La passion de la lecture, exhibée fièrement par les précieuses de salons d'autrefois, semble avoir gagné toute la population féminine, partout en France. Lectrice du 19e siècle au cœur de votre book club aujourd'hui, avec vous, Isabelle Batamoros, qui avait consacré une thèse et désormais un livre paru aux éditions CNRS. Ce livre commence par les discours, on l'a dit, que l'on porte sur ces femmes qui lisent beaucoup, pour une partie d'entre elles en tout cas, mais qui liraient mal. Nous avons en première partie d'émission rappelé dans quelle société elles apprennent à lire et ce dont serait composée leur sorte de bibliothèque collective à ces lectrices du 19e. Penchons-nous désormais sur deux ou trois exemples précis, puisque vous parliez à l'instant de la part des émotions dans les livres que lisent ces lectrices du 19e, eh bien on va commencer par ça, la fièvre de lecture.
Au 19e siècle, quand la littérature est devenue quelque chose de plus populaire par l'intermédiaire de l'édification de la grande presse, puisque c'est comme ça que les premiers feuilletons ont été publiés dans la grande presse populaire, il y a eu un sous-genre qui a été la littérature de femmes. Aujourd'hui, on appellerait ça de la littérature de gare. Et cette littérature de femmes, qui était d'ailleurs pas mal écrite par des femmes, puisque c'était un sous-genre, elles y avaient droit, c'était des livres qui se lisaient rapidement, qui mettaient en scène des femmes qui rêvaient de beaux jeunes gens, de mariages non arrangés. Mais très vite, les hygiénistes et les médecins, et je ne parle pas des moralistes, se sont emparés de cette littérature féminine pour dire qu'elle était très dangereuse, parce que les femmes, dans leur foyer de la moyenne bourgeoisie, donc dès les années 1830-1840, passaient beaucoup trop de temps dans leur emploi du temps quotidien, à être aspirées par ces livres et à rêver leur vie plutôt que de la vivre. Lire n'est pas un acte innocent, lire est un acte qui peut vous entraîner très loin. Et donc, elles ont gardé ce mystère, cette opacité, et peut-être ce danger, effectivement, que conserve la lecture. Car effectivement, lire un livre peut vous entraîner, peut-être à changer d'amour, peut-être envisager l'existence autrement. La lecture représente plus ça, cette espèce d'intensité et de possibilité toujours ouverte, chez une femme que chez un homme.
« 31 mai 1842. Je me faisais souvent l'héroïne des romans de Walter Scott et James Fenimore Cooper. Toutes les aventures que j'y avais puisées se retraçaient à ma mémoire. Je me les attribuais, en dépassant les limites bien entendu, autant que mon ignorance du monde. Et mes petites passions à peine naissantes pouvaient aller au-delà. Et je marchais à tâtons, dans les voies instinctives et mystérieuses du cœur humain, jusqu'à ce que, n'y voyant que du feu, je m'arrêtais essoufflée et presque effrayée de ces efforts d'imagination que j'appelais des écarts monstrueux et que j'aurais été bien honteuse de raconter. Voilà l'effet des romans sur les jeunes filles. Elles ont de bonne heure le cœur ardent et sensible. Personne ne le sait mieux que moi. Les plus froides en apparence sont les plus exaltées intérieurement. Journal Zélibulli, 1842. Privée de mes lectures, je n'en gardais que mieux dans ma mémoire les noms, les images, les aventures romanesques que j'y avais entassées depuis 6 mois. Je continuais, à part moi, de vivre dans la compagnie de belles princesses, dans des bosquets enchantés où l'on soupirait d'amour. Je ne rêvais plus que de ravisseurs, blancs pâle froid, bergers fidèles. Je savais que désormais, le parfait bonheur, c'était de voir à ses pieds un beau chevalier qui jurait d'aimer toute la vie. Mes souvenirs, Marie Dagout, 1877.
Deux extraits que vous partagez avec nous généreusement dans votre livre, Isabelle Matamoros, c'est
trop touchant aussi de lire ces textes du 19e, ces mémoires et ces souvenirs où ces femmes parlent de leur lecture. Et juste avant, la voix de la productrice radio, mais surtout là, en l'occurrence, historienne Laura Adler, qui avait notamment écrit « Les femmes qui lisent sont dangereuses » et qui parle de cette fièvre de lecture qui bat comme ça au cœur des femmes. Et là, on entendait dans les deux extraits « Je marche à tâtons dans les voies du cœur humain, ce sont des écarts monstrueux, j'aurais presque honte à parler de cela, voici les effets des romans sur les jeunes filles. » Et puis la deuxième qui rêve à avoir un chevalier à ses pieds. D'une certaine manière, ces femmes, en écrivant ces lignes, elles corroborent le discours masculin et dominant qui dit « Surtout, ne mettez pas trop de romans dans les mains des jeunes filles, elles vont s'enflammer et quitter la voie qu'on voudrait les voir garder. »
Tout à fait. En fait, il y a une tension. Il y a une tension permanente dans les écrits des femmes entre, effectivement, voilà, ce qu'elles entendent, le poids des normes hein, qu'on leur assène depuis la petite enfance et leur propre expérience de lecture. Et il faut bien comprendre que beaucoup d'entre elles, en fait, c'est normal, reproduisent, ont tellement intériorisé tout ce qu'elles ont entendu sur le danger de la lecture depuis leur enfance, qu'elles le reproduisent. Et après, effectivement, c'est très touchant et c'est particulièrement stimulant en tant que chercheuse de tomber sur un texte comme celui de Zélie Bully qui confronte, enfin qui nous permet vraiment de confronter un peu à cette tension. On voit bien chez cette jeune fille qui, dans mon souvenir, a à peine 18 ans, d'une part, qu'elle lit comme toutes les jeunes filles de son époque quasiment Walter Scott, et on voit ce qu'elle en fait, ou plutôt ce qu'elle essaye de ne pas en faire, c'est-à-dire de se laisser emporter sur voilà les terrains de l'imagination, parce que on lui a dit que c'était pas bon de le faire, et elle s'en rend compte. Elle s'en rend compte hein, quand elle parle effectivement des écarts monstrueux.
Mais elle se rend compte de l'intensité de vie que ça peut être. C'est ça aussi qu'on peut lire
en temps. Et là, en fait, on voit aussi l'expérience. Hein, et effectivement, l'intensité de l'expérience de lecture telle qu'elle a pu le vivre. Et après, ce qui est intéressant, c'est que dans la suite de son journal, elle revient sur cette lecture de Walter Scott et puis elle dit finalement. Peut-on appeler roman un livre de Walter Scott ? Comme pour le mettre encore plus à distance et pour dire, en fait, se dédouaner, dire, bon, finalement, on peut pas vraiment appeler ça un roman, alors j'ai le droit de le lire. Mais là, on voit effectivement toute la tension qui est...
Je l'ai dit au début de cette émission, vous êtes spécialiste du genre au 19e siècle et vous racontez et vous démontrez dans votre livre comment il y a aussi une sexuation à travers la lecture, une façon de se situer par rapport à son genre, une manière aussi de performer son genre. Et on l'entend dans ce que vous venez de dire, Isabelle Matamoros, c'est-à-dire intégrer les discours de normes, être capable de parfois mettre à distance ce que l'on dit des femmes qui lisent, des jeunes femmes qui lisent, pour se créer une identité féminine ou bien propre en collant au discours dominant ou bien parfois en s'en décalant. Et c'est ça qui est intéressant. Comment est-ce que la lecture est aussi un lieu pour les femmes de recherche et d'établissement d'une identité de leur genre ?
Eh bien, les femmes du premier 19e siècle, là, questionnent la condition féminine à travers leur lecture et notamment grâce à tous ces romans que vous évoquiez, ces romans écrits par les femmes pour les femmes hein,
ce que disait Laura Adler
voilà,
aussi
tout ouais. à fait que Laura Adler évoquait tout à l'heure dans l'extrait en fait bon nombre de ces romans par exemple ceux de Madame de Staël hein, comme Corinne mais également les romans de George Sand hein, ces premiers romans dits féministes Indiana ou Lélia vont permettre aux lectrices de s'interroger sur leur propre situation, sur leur propre condition de femme, enfin voilà, de jeune fille, puis de femme, d'épouse, de mère.
Et elles en témoignent de leur lecture. Dans leur correspondance, dans leurs journaux, on peut trouver des femmes qui témoignent de leur propre interrogation à la suite de certaines lectures, Isabelle Matamoros.
Oui, tout à fait, oui. Oui. Que ce soit Corinne, hein, qui donne l'exemple d'une femme, voilà, à la fois libre, mais en même temps poétesse maudite. Donc, est-ce qu'on peut être libre et écrire et participer au débat intellectuel. On en revient aussi souvent à cette question. Que ce soit à partir des romans de George Sand, qui vont être très rapidement condamnés aussi hein, par la bonne morale, hein, parce qu'ils donnent de mauvais exemples aux jeunes filles. Oui, elles s'interrogent énormément et elles mettent en balance, en fait, leurs prosaïques activités hein, quotidiennes, que ce soit les sociabilités, que ce soit aussi dans les familles un peu plus populaires, les travaux de couture, les travaux de lessive, et tout ce à quoi elles ont accès dans les livres.
Et ça veut dire que d'un seul coup, les livres, au-delà d'être un loisir, au-delà de nourrir leur imaginaire, éventuellement leurs émotions fortes, Isabelle Matamoros, ça peut devenir une façon d'avoir un autre horizon. Et si on emploie des grands mots, un horizon éventuellement émancipateur, et si on emploie des encore plus grands mots, une sortie de leurs conditions, ça pourrait participer à ce chemin-là?
Moi, je le pense, oui, bien sûr, je le pense de manière acharnée. C'est-à-dire que les femmes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les moralistes au début du 19e siècle craignent profondément que par leur lecture, les femmes remettent en cause leur situation, et notamment leur situation conjugale. Hein. On pense que finalement, à force de lire des histoires d'amour...
Elles vont rêver à trouver l'amour. Et pourquoi pas des mariages pas arrangés, et pourquoi pas des mariages d'amour.
Tout à fait. Et après, on n'a qu'à penser finalement à Madame Bovary, hein, et finalement au destin tragique d'Emma Bovary, quand elle lit en fait tous ses romans, bon marché, qui la projette dans un univers... totalement fantasmée. Mais effectivement, les femmes, et ça, elles en témoignent énormément dans leurs journaux, dans leurs lettres, et ensuite dans leurs autobiographies, les femmes sont à la recherche d'elles-mêmes, plusieurs utilisent ce terme, d'une connaissance de soi à travers leur lecture, qu'on ne leur permet pas, en fait.
Voire qu'on leur interdit.
Oui, tout à fait. Et beaucoup utilisent ce terme. J'ai réussi à me connaître moi-même à travers la lecture. Donc là, effectivement, il y a une forme d'affranchissement, d'émancipation individuelle.
Pour continuer sur ce terrain de l'émancipation, on va lire dans un instant une lettre qu'une femme ouvrière qui s'appelle A. Daniel, on ne connaît pas son prénom, adresse à Flora Tristan. Flora Tristan, c'est une figure importante dans votre livre Le pouvoir des lectrices. Isabelle Matamoros, est-ce que vous voulez bien nous rappeler qui elle est?
Oui, alors Flora Tristan, oui, c'est une personnage incontournable, à mon sens, du premier 19e siècle. Flora Tristan, elle naît dans un milieu à la fois aristocratique mais déclassé, puisque son père meurt jeune et que pour des raisons légales, sa mère et elle n'ont pas d'héritage. Donc elle grandit pour le coup dans un milieu peu fortuné. On ne sait pas grand-chose de sa jeunesse ni de sa formation intellectuelle. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'on la retrouve dans les années 1830 dans le Paris socialiste, où elle se met à fréquenter les milieux socialistes. On la retrouve également en Angleterre, où elle rencontre Robert Owen, Anna Wheeler, donc vraiment pareil, là encore les milieux socialistes. Et après, elle devient une militante acharnée l'émancipation du peuple et des femmes.
Et dans ce cadre-là, elle publie des livres.
Tout à fait, elle publie des livres, notamment un manifeste qui s'appelle L'Union ouvrière en 1843, dans lequel elle lit de manière indissociable l'émancipation du peuple et des femmes. Et à mon sens, c'est ça qui en fait une figure majeure de cette époque-là.
Et elle est lue, on peut dire ça, Isabelle Matamoros?
Alors, elle est lue, oui, elle est lue dans les milieux ouvriers parce qu'elle elle fait une œuvre de prosélytisme acharnée dans un tour de France qu'elle effectue en 1843-44, où elle distribue son livre. Mais elle est lue également parce qu'elle a publié quelques années auparavant un roman, Mes fils, qui l'a fait connaître au grand public. Elle est lue également pour aussi une autobiographie, Les pérégrinations d'une paria, qui raconte en fait son voyage à la recherche de sa famille paternelle au Pérou. Donc elle est déjà lue, elle est connue sur la scène publique également pour un fait divers, parce qu'en fait son mari, elle était en instance de séparation de son mari, et il lui a tiré un coup de revolver en pleine rue qui lui a perforé un poumon, et en fait la presse a cru qu'il s'agissait de George Sand, et donc en fait il y a eu un grand bruit autour de cette affaire. Il s'agissait de Flora Tristan, mais du coup, ça lui a apporté une renommée supplémentaire. Donc oui, elle est déjà lue et connue avant qu'elle se lance dans son apostolat auprès de la classe ouvrière.
Et c'est donc de cette classe ouvrière qui est issue cette figure qui est A. Daniel, dont on écoute un extrait d'une lettre qu'elle adresse à Flora Tristan.
Madame et sœur, je suis heureuse d'avoir lu votre livre. Je suis surtout heureuse que ce soit une femme qui ait le fond des idées qui me dominent. Non, madame, votre livre n'est pas une illusion, ni une utopie, mais bien chose réalisable et qui se réalisera. J'ai la foi et Dieu la donne pleine et entière. L'idée que vous avez produite, à des exceptions près, était mon idée dominante depuis 5 ans. J'ai 28 ans. Je suis ce que l'on appelle dans toute l'acception du mot « fille du peuple ». élevé parmi le peuple, toujours avec lui. Je l'ai étudié et souvent même été très malheureuse de ses errances. Mais chez lui, le cœur est bon. Quand il comprend bien, il agit bien. Mais la plus grande difficulté est là, lui faire comprendre. Je sais, madame, qu'il est très difficile aux âmes très élevées d'aller lentement, et pour ainsi dire, en enfant. Mais cela est indispensable pour réussir. Pourquoi le roman de M. Eugène Sue a-t-il été compris des personnes qui l'ont lu ? Je parle des Mystères de Paris. Et pourquoi le serait-il des masses si les masses avaient le temps de lire et pouvaient dépenser en roman 40 sous pour lire l'ouvrage entièrement ? C'est que c'est un ouvrage amusant et instructif qui les amène à leur donner des idées sérieuses. Lettre de A. Daniel à Flora Tristan, mai 1844.
Elles sont quand même délicieuses, ces archives, très émouvantes. Isabelle Matamoros, on imagine cette femme issue du milieu ouvrier qui prend sa plume, qui adresse une lettre à Flora Tristan pour lui témoigner en fait de l'expérience de lecture du peuple. Et on voit des thématiques encore extrêmement contemporaines, à savoir le budget qu'il faut pour pouvoir se procurer des ouvrages, le temps de loisir qu'il faut pour pouvoir lire et la possibilité de comprendre les textes. Finalement, elle l'appelle à dire « écrivez des textes que nous pourrions comprendre ». Est-ce que de cette façon-là, Isabelle Matamoros, on pourrait dire, si on continue une sorte de typologie comme ça des expériences de lecture de 19e, que l'on quitte le livre comme outil de connaissance de soi, comme rapport à l'émotion, comme rêverie, l'imagination, l'amour et que sais-je, pour aller vers outils de compréhension du monde ?
Oui, tout à fait. Alors merci déjà d'avoir choisi cet extrait, parce qu'effectivement c'est une archive extrêmement émouvante.
Vous l'avez trouvée comment ?
Eh bien en fait elle est conservée dans les archives de Flora Tristan à Castres, et par je ne sais pas quel hasard, elle n'a jamais été publiée, alors qu'une grande partie de la correspondance de Flora Tristan a été publiée. Mais cette lettre apparemment n'était pas digne d'intérêt. Pour moi évidemment c'était une source incroyable, puisque en fait là c'est qu'un extrait, alors la lettre fait 8 pages quasiment.
On ne sait pas qui est cette femme.
Alors on ne sait pas qui est cette femme, elle dit beaucoup d'elle-même, elle dit qu'elle a 28 ans, elle dit qu'elle est originaire de Rennes, qu'elle est arrivée à Paris sans père ni mère, et qu'elle a commencé à travailler sans doute dans les milieux de la couture. C'était sans doute brodeuse, c'était souvent le cas pour les jeunes filles démunies de l'époque. Et elle dit également qu'elle a une vie extrêmement malheureuse et qu'elle est traitée par son entourage, par son voisinage, de grisette, qui est un terme extrêmement péjoratif, qui désigne justement ces petites mains
qu'on voit souvent comme ça, comme représentées en train de en grappe comme ça, en train de traverser les rues pour aller de travaux de couture.
Tout à fait. Et qui ont des amants aussi. C'est aussi pour ça qu'elles sont
que c'est péjoratif.
Que c'est péjoratif. Mais ce qui est extrêmement touchant dans cette lettre, c'est qu'effectivement elle s'adresse à Flora Tristan en rappelant toutes les conditions matérielles de la lecture du peuple. Et c'est très intéressant parce que souvent on a les discours, en fait, que ce soit de Flora Tristan ou des autres théoriciens socialistes sur cette question, qui une vraie
qu'il faut éduquer la population.
Qu'il faut à la fois l'éduquer, mais qu'il faut que le peuple ait le temps de lire dans la société industrielle naissante, ce n'est pas évident. Qu'il faut qu'il ait l'argent, parce que un livre coûte encore extrêmement cher, même si on est au début, à l'amorce de la baisse du coût des livres et de la naissance de la littérature industrielle, et également qu'il faut qu'ils comprennent ce qu'ils
Mais c'est lisent. Rare d'avoir le discours depuis
voilà,
le peuple.
Voilà, c'est ça, exactement. Ensuite, pour revenir à votre question sur la question de la compréhension du monde, oui, en fait, le livre est une porte vers n'importe quel, vers tous les savoirs et vers du coup la compréhension du monde. Et c'est pas juste un acte introspectif. En fait, c'est avant tout s'informer.
Ces deux choses-là, Isabelle Matamoros, c'est aussi ça que montre la typologie que vous faites de la lecture au 19e. Et on a passé tout un temps sur les femmes qui lisent les femmes et qui rêvent depuis chez elles. Et puis là, quand même, on entend qu'il y a autre chose, peut-être un mouvement qui va plus vers le collectif, qui va plus vers l'extérieur, qui va plus vers l'émancipation aussi de la condition, l'émancipation politique, tant du point de vue du genre et du féminin que de la classe sociale. Parce que ce que dit aussi cette femme à Daniel, c'est que non seulement ils vont comprendre le monde, et puis que potentiellement, finalement, ils pourront le changer. Ils c'est aussi changer. Ça que, oui, oui. que sous-tend aussi ces lectures-là.
Bien sûr, d'où la crainte hein, des hommes politiques au tournant des années 1840 que les classes ouvrières ne se mettent à lire trop, et surtout... Toujours la même question, hein, pas les bons livres. Mmh. Parce que, effectivement, ce qu'on craint derrière tout ça, c'est que les ouvriers se réveillent et ne s'engagent dans une nouvelle révolution.
Mais est-ce que peut-être sous-tend votre texte, c'est qu'à chaque fois, ces peurs sont justifiées. On reprend le titre du livre de Laura Adler, Les femmes qui lisent sont dangereuses, mais d'une certaine façon, vous dites oui, elles le sont, car si elles lisent, elles pourront envisager pour elles une autre vie de femme, une autre vie sexuelle, une autre vie amoureuse, une autre vie de travail. Et les ouvriers qui lisent sont dangereux, ils pourront envisager pour eux une autre existence, une autre organisation, une autre hiérarchie sociale. À chaque fois, on peut considérer que la crainte du discours de la classe dominante serait justifiée.
Parce que finalement, malgré tout le poids des normes, hein, toutes les répétitions qu'on peut entendre depuis l'enfance, hein, que ce soit de la part de la médecine, que ce soit de la part de l'Église, que ce soit de la part des institutions familiales, scolaires. En fait, le lien qui se crée entre le lecteur, la lectrice et le texte n'est jamais entièrement déterminé. Mmh. Et finalement, il reste une part irréductible.
De liberté, d'inconnu.
Qui échappe à tout contrôle. Et c'est cette part d'irréductible qui...
Intime ou politique, voilà, d'ailleurs.
Ouais. Tout à fait. C'est cette part d'irréductible qui fait peur.
On va aller vers le troisième choix d'extrait. On s'appuie toujours sur les archives que vous partagez avec nous, Isabelle Matamoros, dans votre livre « Le pouvoir des lectrices ». Ici, il s'agit de la lecture de la presse.
J'attends impatiemment le journal que vous m'annoncez. Il me sera bien plus agréable que la Gazette qui nous vient de Paris, qui ne fait parler que politique. Vous m'en direz bien un mot cependant, car vous devez entendre parler politique du matin au soir. Ces débats sont assez amusants quand il y a des gens d'esprit de part et d'autre. Autrement, c'est comme les différends de M. Archeblat et de sa femme. Croyez-vous qu'il jaillisse beaucoup de feu du choc de ces deux pierres ? Pardon, vous allez crier à la malice. Voilà comme la politique fait dur du mal. Qui sait tout celui que je dirais si... Mais laissons-la cette méchante politique. Laissons-la aller son chemin, traînant ceci à droite, cela à gauche, et Monsieur Ray jusqu'à Albi. Lettre de Eugénie de Guérin à Louise de Benne, 21 juin 1830. Tout le monde se mêle de politique. Il ne vient pas chez nous le moindre rustre qui ne s'avise de parler de chartes, de députés, etc. Le fait est que les nouvelles de Paris n'arrivent pas. Ce n'est pas le cas de dire « point de nouvelles, bonne nouvelle ». Nous sommes sur un volcan. Lettre de Eugénie de Guérin à Louise de Benne, 4 août 1830. Le lendemain, en lisant les journaux, je faillis m'évanouir. Que je souffris pendant les moments d'incertitude de cette révolution. Ne pouvant plus demeurer en place dans mon agitation, j'allais chez la fermière du château. À ma grande surprise, j'y trouvais le journal qu'un voisin avait envoyé. Je le saisis, le parcourus. Émotion inexprimable. Saint amour de la patrie et de la liberté, de quelle joie tu peux inonder un cœur. C'était le récit du triomphe de notre cause, la fuite de Charles X, la proclamation de Lafayette. Mémoire, Justine Guillery, 1830.
Moi, je trouve que c'est vraiment la régalade de tous ces archives, Isabelle Matamoros. C'est délicieux de les entendre lire par Louise Hott. Donc, trois lettres qui sont à chaque fois datées. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est très concret aussi comme matériau. On entend ces femmes penser, on les imagine écrire. Ça participe de l'émotion qu'on a à concevoir avec vous toutes ces archives. Alors, peut-être on va d'abord faire un premier temps sur la présentation d'Eugénie de Guérin, qui est l'autrice des deux premières lettres qu'on vient d'entendre. Dire pourquoi est-ce que c'est intéressant en termes de pensée de l'émancipation et de la lecture du journal. Et puis, dans un second temps, pourquoi est-ce que vous vous en servez néanmoins pour pondérer un tout petit peu votre propos ?
Alors oui, donc Eugénie de Guérin est est une fille qui appartient à la petite aristocratie provinciale du sud de la France. Elle naît en 1804 et elle est surtout connue, elle est assez connue dans les milieux, dans le milieu des études littéraires actuelles et voire les études sur le 19e siècle, parce qu'elle est l'autrice d'un journal, un journal intime, qui a été publié pour la première fois en 1862 et qui a été un best-seller de la fin du 19e siècle. C'est vraiment l'un des premiers journaux de femmes publiés et il est donné à lire à des générations entières de jeunes filles. Et ce qui est très intéressant, c'est que Eugénie de Guérin est généralement présentée comme la lectrice catholique par excellence, modèle. Et elle était présentée comme un modèle de jeune fille, de rangée.
Bonne éducation.
Exactement, tout à fait. Ce qui est très intéressant dans son journal, mais là, il s'agit de ses lettres qui ont également été publiées plus tardivement, c'est qu'on voit que à côté de toutes ces lectures de piété, elle avait accès à d'autres lectures.
Vous dites même qu'elle répartit, en décrivant sa bibliothèque, 18 livres pieux contre 22 livres profanes. Ça dit que, on va dire, la proportion s'inverse.
Oui, c'était assez surprenant. En fait, sur une petite feuille de papier, elle avait dressé ce qu'elle appelait ma bibliothèque, avec la liste de tous ses livres. Et effectivement, alors, la liste n'est pas finie, elle laisse de l'espace en bas des deux listes pour pouvoir l'agrémenter. C'est un peu ça, c'est un peu notre pile de lecture actuelle. Mais là, elle n'est pas finie, cette liste, mais les livres profanes occupent plus de place. Donc ça, c'est quand même, c'est un sacré contrepoids à tout ce qu'on peut entendre sur le fait que les femmes ne lisaient que des livres de piété et qu'elles étaient complètement enserrées dans ces normes de genre. Après, Eugénie de Guérin critique vraiment à la marge sa condition de
elle
femme.
Elle n'est pas là pour faire la révolution féministe.
Absolument pas. Elle s'interroge régulièrement sur son éducation, sur les limites de son éducation. Elle se rend bien compte, par exemple, que le latin, il est trop tard pour s'y mettre, qu'elle aurait peut-être dû, qu'elle ne s'y est pas mis et que maintenant, à 25 ans, elle trouve ça trop difficile pour une femme de son âge et de sa condition, c'est-à-dire en fait seule dans son petit château du Tarn, de s'y mettre. Donc voilà, il y a des petits moments où elle s'interroge sur sa condition et surtout en fait au moment de 1830, ça c'est vraiment très intéressant et ça a été une belle découverte également, on peut avoir également l'impression, à écouter toutes ces femmes, qu'elles restent toujours loin de la politique. C'est-à-dire qu'effectivement, elles s'interrogent sur leurs conditions de femmes, elles s'interrogent sur leur spiritualité, sur leur éducation, etc. Mais finalement, on pourrait passer un peu à travers les soubresauts politiques du 19e siècle. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. On a quand même trois révolutions en un peu plus d'un demi-siècle. Et donc, au moment de 1830, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit là Eugénie de Guérin qui sort de sa réserve naturelle au sujet des événements politiques.
Grâce à
sa lecture des journaux. Et là, on voit comment, en fait, l'information, en des temps décalés, alors effectivement, c'est daté, donc c'est très intéressant de voir comment l'information et à quel rythme l'information accède. Mais là, on voit en fait que tout d'un coup, elle ne peut pas faire comme si elle n'était pas au courant et comme si ça ne l'intéressait pas. Elle appartient à une famille royaliste, catholique royaliste, donc elle est évidemment très inquiète des événements en cours juin-juillet 1830. Et elle finit en fait toute cette série de lettres à son amie Louise de Benne. En disant que n'ai-je pas ma carte d'électeur, en fait, si je le pouvais, j'irais avec mon père, qui lui a le droit de vote, j'irais avec mon père en fait soutenir notre roi. Et c'est vraiment un exemple assez frappant.
Et alors justement, pourquoi cet exemple d'Eugénie de Guérin vous permet tout de même de pondérer votre propos ou de dire que à la fin de votre ouvrage, vous dites bon, en fait, on a traversé tout ce paysage d'électrices du 19e en montrant en fait non seulement que ces femmes lisent, que contrairement à tout ce qu'on dit d'elles, elles lisent plutôt bien et que la lecture a un impact à la fois sur leur existence, la manière dont elles se figurent elles-mêmes, elles se figurent leurs conditions et pourquoi pas même leur possibilité de changer le monde. Oui, mais. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas complètement se dire que... Se dire quoi ?
Et que se dire que l'émancipation est complètement en marche en 1840.
Grâce aux bibliothèques.
Parce qu'en fait, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a quand même toute une gamme de positionnement chez ces femmes. Qu'effectivement, il peut y avoir des critiques un peu marginales, un peu en sourdine, etc. Mais que, en fait, beaucoup ont tellement intériorisé le modèle qu'on leur a inculqué, que finalement, elles ne remettent pas en cause leurs conditions. Et certes, en fait, aujourd'hui, on connaît, George Sand, on connaît Marie Dagout, Flora Tristan, on connaît celles qui ont porté la critique plus tard, dans les années 60, 70, bien souvent, même s'il y en a qui sont actives des années 1840. Mais finalement, derrière elles, il y a toute une masse silencieuse de femmes qui font leur chemin, qui s'interrogent, mais voilà, on n'en est pas encore effectivement à la création d'un collectif. Ce collectif, il est un peu imaginé chez une femme comme A. Daniel, qui espère que finalement il y ait une lecture féministe.
Il est imaginé aussi dans votre livre, puisque vous leur constituez une bibliothèque collective. Oui, c'était une façon de les relier. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, comme chaque semaine, l'heure est venue de parler de littérature jeunesse avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, vous souhaitez nous exposer un problème auquel toutes celles et ceux qui lisent des livres aux enfants peuvent se trouver un jour confrontés.
Et oui Marie, et je partirai d'une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais en vacances avec une amie, mère comme moi, de deux garçons à l'époque petits. Un soir, l'heure venue de leur lire un livre ayant sonné, je sors de notre sac une histoire que nous lisions très souvent de notre côté, La plus mignonne des petites souris. C'est un classique des éditions du Père Castor, paru pour la première fois en 1953. Elle est inspirée d'un conte populaire, texte et illustration signé Étienne Morel. « Quoi ? Tu leur lis ça ?» s'exclame mon ami, choqué.
« Bah oui, pourquoi ?» je réponds.
« Mais elle est pas possible cette histoire, tu peux pas leur lire ça !» Il convient à ce stade que je vous en résume le propos de cette histoire. C'est l'histoire de la famille Rongetout, une famille de souris donc. Monsieur et Madame Rongetout ont une fille, la plus mignonne des petites souris. Elle sait danser, elle sait tricoter, elle sait faire des gâteaux, elle sait jouer du piano. Il est temps de la marier, dit Madame Rongetout. Il est temps de la marier, dit Monsieur Rongetout. Et le narrateur d'ajouter, mais elle n'épousera que le plus puissant personnage du monde, car c'est la plus mignonne des petites souris et personne d'autre n'est digne d'elle. Monsieur Rongetout enfile sa plus belle redingote pour aller trouver le personnage qui est à son sens le plus puissant du monde, le soleil. Arrivé en son palais, il expose son projet, mais le soleil, dans sa grande robe de chambre, lui répond qu'il se trompe. Il n'est pas le plus puissant personnage du monde. Ce nuage qui passe par là est plus puissant que lui, puisqu'il ne peut empêcher que le nuage lui cache la terre. Monsieur Rongetout s'en va donc trouver le nuage, qui à son tour explique que le vent est plus puissant que lui, puisqu'il ne peut l'empêcher de l'emmener où bon lui semble. Mais le vent explique que la vieille tour au loin est plus puissante, puisqu'il n'a jamais pu l'abattre. Après tout ça, Monsieur Rongetout est bien fatigué. Il va tout de même trouver la vieille tour, mais la tour expose à son tour. Le souriceau qui ronge ma plus grosse poutre est plus puissant que moi, puisque quand il aura fini de ronger, je m'effondrerai sûrement. Alors, Monsieur Rongetout va trouver le souriceau. « Je connais depuis longtemps votre fille, dit le petit rongeur, et je serai très heureux de l'épouser. » Ainsi, la plus mignonne des petites souris épouse le souriceau. Monsieur Rongetout est très satisfait puisque sa fille épouse celui qui est plus puissant que la tour, qui est plus puissant que le vent, qui est plus puissante que le nuage, qui est plus puissant que le soleil. Fin de l'histoire.
Et on devine à vous écouter, Mathilde, que les réserves de votre amie concernaient cette histoire.
Oui, le fait qu'elle met en scène une jeune fille dont les qualités se résument à son apparence physique, au fait de savoir tricoter ou faire la cuisine, et dont le sort est en outre décidé par un patriarche qui érige par ailleurs la puissance en qualité essentielle. Autrement dit, une histoire empreinte de préjugés, d'une vision sexiste, patriarcale, voire masculiniste, comme on ne disait pas en 1953. Le plus rude étant pour mon ami la chute et le fait que la petite souris épouse pour finir l'un des siens, restons entre nous, dit à son sens cette histoire, n'épousons que nos semblables, l'ordre du monde n'en sera que mieux gardé. Ce jour-là, nous avons eu une discussion animée, mon ami et moi. Je ne pouvais nier que cette histoire véhiculait en effet des préjugés, mais je trouvais, et trouve toujours sa morale et son propos polysémique, et surtout, je n'étais pas d'accord avec la conclusion que mon ami en tirait, la censure pure et simple. Je ne comptais pas pour ma part nous priver de la qualité de cette cette langue, de ce rythme, de ces illustrations et du côté précisément délicieusement désuet de l'ensemble. À mon avis, l'attitude de mon amie relevait d'une confusion entre fiction et éducation. Si elle refusait de lire cette histoire à ses enfants, c'était au nom de la crainte qu'ils ne fassent sien les préjugés que l'histoire véhicule. Je ne crois pas pour ma part que le préjugé se transmette comme une maladie. Je ne crois pas que la littérature, fût-elle pour enfants, ait pour rôle d'éduquer. Je pense en outre que les enfants sont capables d'esprit critique. Mais une fois tout ceci posé, j'ai très souvent repensé à ce désaccord et réfléchi à la limite de mes propres arguments. J'ai songé qu'il m'arrivait aussi par ailleurs d'exercer la censure. Je n'ai jamais lu Tintin au Congo à mes enfants, par exemple.
Très vaste problème que vous soulevez là, Mathilde, qui nous intéresse beaucoup en ce moment au Book Club. Comment conclure ?
Oui, très 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 vaste problème. En effet, je vais avoir bien du mal à conclure. Comme souvent, il me semble que le problème est en réalité plus intéressant que la réponse ou les réponses qu'on peut lui apporter. Il résiste comme une invitation à en comprendre la complexité. Je tâcherai dans d'autres chroniques à venir de continuer à l'explorer. Je vous livre tout de même ici, d'ici là, une petite citation pour finir. Elle est extraite du Manifeste pour la liberté de création, imaginé par la spécialiste de littérature jeunesse Sophie van der Linden. Ce manifeste commence comme ceci. Ici, on n'interdit pas les livres, on les fait vivre.
Merci beaucoup Mathilde Wagman, ça me donne envie d'ouvrir la conversation sur le compte Instagram ou sur la boîte mail du Book Club, lebookclub@radiofrance.com. C'est un sujet vraiment très intéressant. J'en profite pour signaler qu'on va recevoir lundi prochain Laure Murat qui vient de faire paraître un petit livre, mais lui aussi bien dense, qui s'appelle « Toutes les époques sont dégueulasses » et qui recoupe certaines des problématiques que vous évoquiez là. Lecture jeunesse, votre chronique est-elle à réécouter sur franceculture.fr. Et justement, je disais, nos auditeurs, auditrices, écrivez-nous, écrivez-vous sur le compte Instagram du Book Club ou via la boîte mail lebookclub@radiofrance.com. Et par exemple, jouez avec nous au grand jeu des pages musicales. Il s'agit de repérer des évocations musicales dans les livres que vous lisez. Cette fois, c'est Vanessa qui joue avec nous. Elle nous suggère un extrait de La vie est à nous, un roman d'Adrien Clent paru en 2023 aux éditions Le Tripode. Emilien a mis un disque de Albert Ayler, Going Home. Luz en écoute un morceau sur son téléphone en descendant dans une salle de réunion. Elle lui écrit qu'elle aimerait bien être avec eux. Il lui répond que demain, elle sera là. À New York, la réunion avec la directrice du Haut Commissariat aux réfugiés commence et à Paris, Emilien appelle ses enfants. « À table !» Après le dîner, ils s'installeront tous les trois dans le coin salon, chacun dans son endroit favori, le canapé gris, le fauteuil en vieux cuir rouge, le gros pouf violet. Augustine lira un de ses mangas qui, aux yeux de son père, se ressemblent tous. Pierre, un gros roman sur des ados qui évoluent dans un monde post-apocalyptique. Et Émilien prendra ce petit temps de répit pour lire de la littérature. C'est un plaisir qu'il a réussi à conserver, garder presque une heure tous les jours pour lire des livres qui ne lui servent pas dans son travail. Émilien lève les yeux de son livre, il regarde ses deux enfants jumeaux concentrés, chacun dans sa lecture. Augustine enroule doucement une mèche de cheveux autour de son index. Pierre tapote machinalement son roman. Tiens, les enfants ne m'ont pas reparlé du téléphone aujourd'hui. Journée à marquer d'une pierre blanche. Merci beaucoup Isabelle Matamoros d'avoir été avec nous. Le pouvoir des lectrices, une histoire de la lecture au 19e siècle. C'est paru aux éditions CNRS. Au son aujourd'hui, c'était François Saint-Jour à la réalisation. Vivien Demeyer, un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, spécialement aujourd'hui Louise Hoth, mais aussi Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Léa Weisgruss, Cyril Marchand, Jeanne Aléos et Alexandra Lai-Begovic qui animent la communauté des lecteurs de France Culture sur Instagram avec le compte du Book Club. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr, via l'application Radio France, partout ailleurs, et n'hésitez pas à partager.